Ils chantent, ils dansent, ils comptent ou ils dessinent. Ces artistes ont la particularité d'exprimer au travers de leur art des convictions chrétiennes. Serge Carrel les a rencontrés cet été. Ils racontent leur trajectoire de vie et nous font part de leur recherche de Dieu, découverte d'artistes et de convictions. Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série À vue d'esprit réalisée cette semaine par Françoise Yenny.
À vue d'esprit. Pierre-Yves Moret.
Une nouvelle série à vue d'esprit que vous nous proposez, Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors, nous serons plongés dans le milieu de l'art cette semaine. Vous nous proposez une moisson de rencontres que vous avez faites cet été.
Oui, j'ai eu l'occasion de descendre au mois d'août dans le sud de la France pour participer dans le centre chrétien de Gagnères au 16e stage artistique des écoles Psalmodia.
Alors, un centre chrétien, ça veut dire que c'est un festival chrétien ?
Alors, c'est un immense camping où il y a effectivement toutes sortes de toiles de tente avec des chapiteaux là au milieu. C'est un centre qui accueille toute une série de semaines ou de dizaines de jours avec des conventions diverses et variées. Le profil est plutôt de sensibilité écuménique, mais avec un accent particulier mis sur le renouveau charismatique. Donc les écoles Psalmodia s'inscrivent là-dedans du côté de la fin du mois d'août.
Des écoles qui sont plutôt liées aux églises évangéliques.
Oui, notamment, mais j'entends qui accueillent très largement et qui sont aussi au service d'autres communautés que celle-là.
Alors là, vous y étiez pour un stage artistique, donc rempli d'artistes de différentes tendances.
Effectivement, alors toutes sortes d'artistes étaient là, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si vous avez le désir de participer à des vacances un peu originales, de faire des vacances intelligentes, vous pouvez vous inscrire à toutes sortes de stages dans ce cadre-là, toutes sortes d'ateliers, ateliers de conteurs, ateliers de clowns, ateliers hip-hop, ateliers de danse orientale. Il y a vraiment un foisonnement d'activités possibles, et cela à la fois pour les enfants, pour les ados et pour les adultes.
Alors pour les rencontres que vous allez nous proposer cette semaine, vous avez bien sûr dû faire un choix dans ce foisonnement. Alors, qui est-ce que vous nous proposez de rencontrer ?
Alors, on va commencer aujourd'hui avec Théo Z, un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il vient de la région de Bordeaux. Après avoir joué dans des groupes punk ou rock, il mène aujourd'hui une carrière de chanteur et se produit régulièrement dans différents festivals de France et dans les églises aussi. Théo Z vient de sortir son 3e CD, Les meilleures choses n'ont pas de fin. Il nous dit ici ce que représente pour lui la sortie de cet album.
C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de recherche personnelle, autant en recherche artistique qu'en recherche intérieure, hein, puisque quelque part, l'écriture de chansons, c'est un travail, un voyage intérieur, hein, qui aboutit par quelques notes de musique et quelques mots qu'on met à côté, un mariage que j'espère heureux. Et à la fin, toutes ces petites chansons, mises bout à bout, se terminent dans un projet qui s'appelle un album, et puis qu'on espère le plus homogène, le plus beau possible. En tout cas, on fait ça avec générosité.
Qu'est-ce qui constituerait le fil rouge de cet album ?
J'espère que c'est un album provocateur. Alors la provocation, qu'est-ce que c'est ? Alors je crois que c'est Cocteau, je crois, qui disait que c'est l'art de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Après la provocation, bon, la provocation en elle-même, ça sert à rien, c'est que de la vanité. Hein. Ce que j'ai envie de provoquer, c'est du bonheur d'abord. Mais en tout cas, j'ai pas envie de passer inaperçu. J'ai envie de provoquer du bonheur, de provoquer des interrogations.
Et en quoi un tel CD ou de telles chansons vont-elles être susceptibles de provoquer du bonheur tout d'abord ?
Le bonheur, il est dans les mélodies. Je travaille pas mal sur les mélodies. J'aime beaucoup les refrains. J'aime beaucoup que les gens chantonnent ce que j'écris dans leur salle de bain ou ailleurs, quoi. Après, le reste, c'est peut-être plus dans le texte. Après, bon, le bonheur, ça peut être aussi également... Enfin, le bonheur, oh, c'est peut-être un grand mot par rapport à certaines chansons, mais au moins de l'amusement. Après, le bonheur, c'est peut-être plus tard par rapport aux questions qu'on peut éventuellement se poser en écoutant certains textes, en écoutant certaines chansons. Vous le savez, on en parlait, je crois, hors antenne. La musique a ce pouvoir fabuleux d'ouvrir les cœurs. Après, moi, ce que mon souhait, c'est que Dieu puisse déposer quelque chose, un trésor, une graine qui, je souhaite, je prie pour, en tout cas, va fleurir et apporter de beaux fruits dans la vie de chacun. Et ce fruit, c'est notamment le bonheur.
Théo Z, comment est-ce que vous définiriez ce que vous faites ? Vous faites de la chanson française et en même temps, vous avez un engagement chrétien, vous seriez une sorte de chansonnier chrétien ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par chansonnier d'abord ?
C'est quelqu'un qui écrit des chansons et puis qui quelque part les chante.
Alors d'abord, le mot chansonnier, pour moi, ça a quand même une connotation un petit peu ancienne, quelque part. J'espère être dans la lignée de la nouvelle chanson française. C'est pour ça que le mot chansonnier, bon, même si je trouve que c'est quand même chouette, quoi, quand même d'être. Je trouve quand même qu'il a une connotation un peu passée, et j'espère faire quand même quelque chose d'actuel. Après, par rapport à mon engagement chrétien, je suis chanteur, mais j'étais chanteur avant d'être chrétien. Je faisais de la chanson avant d'être chrétien. Et j'avais pas forcément envie de donner un message. J'exprimais ce qu'il y avait dans mon cœur à cette époque. Quand Dieu est rentré dans ma vie, ben voilà, automatiquement, j'ai voulu exprimer ce genre de choses, mais comme n'importe qui, comme le boulanger qui est chrétien, exprime sa foi, comme il témoigne de sa foi. Bon, je ne suis pas un ministère, voilà où je veux en venir. Je suis un chrétien comme les autres, et la seule différence, c'est que j'ai un micro et que j'écris des chansons, mais quelque part, je suis juste un témoin de ce que Dieu a fait. J'essaie de témoigner dans mes chansons de ce que Dieu a fait dans ma vie, mais pas uniquement.
Et vous-même, lorsque vous avez à vous produire, vous intervenez plutôt dans les églises ou bien finalement vous essayez d'être dans toutes sortes de milieux ?
Oh, je cherche pas forcément intervenir dans les églises. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on va dire 60% des concerts que je donne sont dans des contextes chrétiens. Mais après, je suis également invité dans les centres culturels, dans des théâtres, dans les festivals, dans des bars. Et mon challenge, c'est d'être le même dans les deux contextes. J'ai pas envie de jouer deux Théo Z chrétien qui va jouer dans l'église X et le lendemain le Théo Z pas chrétien qui va jouer dans un bar. J'ai envie d'être le même bonhomme, c'est-à-dire avec des chansons un petit peu provoques, puisqu'on employait le mot tout à l'heure, dans les églises chrétiennes, mais également avec des chansons qui témoignent de ma foi dans des contextes grand public.
Et là, comment est-ce que ça se passe, le fait justement de jouer sur ces deux tableaux en même temps ? Vous avez l'impression que votre démarche est comprise ?
Ouais, je pense. Je crois être honnête. Je crois, en tout cas, je fais tout pour ne pas vouloir matraquer les gens. Je suis respectueux des gens. Donc, l'un dans l'autre, même si les gens voient bien que je provoque un petit peu, je crois qu'il y a du respect par rapport à ce que je fais. Au démarrage, notamment dans les milieux grand public, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de sortir mes chansons chrétiennes. J'avais peur, je sais même pas de quoi j'avais peur, peut-être ce qu'on appelle avoir honte de l'évangile, c'est pas glorieux, mais bon, c'était un fait. Et puis quand je m'y suis mis, je me suis aperçu qu'en fin de compte, les gens étaient respectueux, avaient soif, n'ayons pas peur des mots, hein, et étaient prêts à accueillir ce genre de choses. Et puis même s'ils ne les prenaient pas forcément pour eux, le fait d'arriver avec des idées, des pensées qui sont altruistes, les gens sont respectueux et ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Après, des fois, c'est peut-être un peu plus difficile dans les milieux chrétiens, où j'arrive des fois avec mes gros sabots, mes chansons un petit peu provoquent. Mais bon, quand les gens grattent un petit peu, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, c'est pas bien méchant et qu'il y a une morale dans mes chansons. Et puis ouais, ça se passe bien, de mieux en mieux en tout cas. Au début, j'étais regardé un petit peu comme un ovni, c'est vrai, parce que j'avais pas eu le temps de faire mes preuves et que même l'église a évolué depuis. Mais maintenant, ouais, ça va.
Théo Z, comment est-ce que vous réagissez quand on vous compare à Francis Lalanne ?
Là, c'était question. Non, on me compare à Francis Lalanne à cause des cheveux, mais on n'est pas tout à fait dans le même style. Sinon, moi, Francis Lalanne, bon, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait un petit peu griller à cause de certaines attitudes qu'il a eues, parce que c'est quelqu'un de très émotif, mais à côté de ça, je pense que c'est un grand artiste. Si on me comparait à Francis Lalanne, on le fait pas, hein. On me compare plus souvent des types comme Higelin ou Renaud, mais si on me comparait à Francis Lalanne, je serais malgré tout assez honoré, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un grand talent, un grand musicien et qui chante très très bien.
Alors aujourd'hui, on a un peu perçu votre démarche. Finalement, vous êtes un chanteur de chansons françaises d'aujourd'hui qui essaye de dire Dieu. Comment est-ce qu'on parvient aujourd'hui à dire Dieu dans le monde de la chanson française ?
Je pense d'abord par l'attitude. Dans un concert de 90 minutes environ, En fin de compte, il y a que très dans mes concerts, il y a que très peu de chansons qui parlent de Dieu. Après, moi, j'ai envie que ces chansons elles soient explicitement chrétiennes. Il y en a peu. Je fonctionne un petit peu sur le principe du grain de sel. Dans les églises, on a l'habitude de manger très salé. Alors, du Dieu, du Jésus, on y va, et on saupoudre, saupoudre. Et en tant que chrétien, on a l'habitude de manger salé. Pour un type qui est dans un bar, c'est indigeste. Par contre, alors donc, je sale pas trop. Mais j'ai envie que les grains de sel que je mets, ils aient de la saveur. Alors, la première chanson chrétienne, elle arrive très très vite. Comme ça, très rapidement, les gens savent à qui ils ont affaire. Ils se disent, tiens, ce type, il est chrétien. Alors maintenant, on va voir ce qu'il vaut. Donc, c'est là qu'il faut assurer dans le témoignage. C'est-à-dire dans l'attitude, dans ce qu'on dit, qui ne sont pas les choses directement liées à Dieu.
Mais là, dans cette première chanson, qu'est-ce que vous dites à propos de Dieu ?
Oh, je ne dis pas forcément, je ne parle pas de Dieu. Dans la première chanson qui arrive généralement dans mes concerts, c'est une chanson qui est inspirée de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est un passage de la Bible.
C'est un passage de la Bible qui parle de l'amour. C'est une chanson donc qui s'intitule « Au temple planté des topinambours ».
Voilà, c'est ça. En gros, ça dit que dans la vie, tu peux faire des tas de belles choses. Tu peux donner tes biens aux pauvres, apporter des belles paroles. Mais si c'est fait sans amour, zéro, autant planter des topinambours. Donc, mais surtout, ça c'est quelque chose qu'on pourrait chanter sans dire que c'est une chanson chrétienne. Mais je dis que c'est une chanson inspirée de la Bible, et déjà ça plante le décor quelque part. Même si après je chante des chansons qui n'ont rien à voir, les gens ils savent qu'il y a quelque chose de biblique là-dedans. Et quelque part je sens bien qu'ils peuvent m'attendre au virage. Et donc c'est dans l'attitude, déjà, que ça se joue, dans l'humour, dans la fête, des choses comme ça. Et après, un peu plus loin, j'arrive à des choses plus profondes et plus personnelles.
Et là, au travers de vos chansons, qu'est-ce que vous essayez de transmettre de plus profond à propos de Dieu ?
Je crois que la chose que j'ai envie de transmettre en priorité, que je souhaite, c'est qu'on a un privilège. En tant que chrétien, certes, mais un privilège que t'as apporté n'importe qui est dans la salle, c'est de pouvoir avoir un cœur à cœur avec ce papa qui est dans le ciel. Et ça, attends, c'est génial, c'est top. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui écoute de suite. Et je crois que c'est la première chose que j'ai envie de transmettre, qui est cette possibilité d'avoir un lien avec ce papa qui nous aime, qui veut le meilleur pour chacun de nous, et qui peut changer nos vies. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer en priorité.
Et là, vous avez une chanson qui exprime cela.
Dans le second album, j'ai une chanson qui s'appelle « Prendre un moment avec toi », qui parle vraiment de la prière. Et dans l'album qui arrive, c'est une chanson qui s'appelle « Prie », qui commence comme ça, « Je veux pas te faire, te prêchi prêcha, style, il est mort pour toi, et tout le tralala. Tout ça, tu le sais déjà, mais si tu le savais pas, je m'en fous, les grosses ficelles, ça m'a toujours filé un mauvais goût. Et puis je t'aime trop, tu sais, pour te filer de la conserve. L'amour préfabriqué, ça donne un peu la gerbe. Ces messages qu'on débite pour se donner bonne conscience, c'est pire que prendre une cuite quand tu les saoules. Fini l'ambiance. » Alors là, c'est pour dire que j'ai pas envie d'apporter des choses toutes faites. Moi, j'ai envie, je t'aime. C'est vrai que ça pourrait paraître un peu bébête, mais j'aime les gens qui sont en face de moi. Donc je t'aime, alors écoute, voilà, la balle est dans ton camp, alors prie, accueille le ciel en toi. Prie, une fois, 10 fois, 100 fois, n'aie pas peur du silence. Voilà, accueille cette joie d'une présence, prie, et puis voilà, tu gagneras du temps et tu verras. Ta vie va changer.
Dans votre avant-dernier album, vous avez une chanson qui a marqué les esprits, c'est « Le fabuleux destin de Joe l'écrevisse ». Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, d'une part, le contenu de cette chanson, puis comment est-ce qu'elle est née ?
Alors, en fait, c'est une chanson qui parle de l'homme, le mal, et la difficulté qu'il a bien souvent avec son écrevisse. Donc c'est une chanson qui parle de l'homme qui a bien des difficultés souvent à maîtriser ses émotions et certaines parties de son corps. Souvent c'est le sexe qui domine les pensées de l'homme, hein, et j'ai voulu parler de ça. Après, on peut pas parler de ce thème en faisant la morale et en parlant sérieusement. Il faut prendre ça sous forme de dérision et avec humour. Et alors, comment elle est née, cette chanson ? Ben, c'est assez rigolo, quelque part. C'est une des rares chansons que j'ai écrites rapidement, parce que généralement, je mets du temps. Figurez-vous que cette chanson, je l'ai écrite sur mon scooter.
Ah bon ?
Donc, je roulais et j'ai eu cette idée. Et il fallait absolument que j'écrive. Donc, hop, je m'arrête.
Donc là, vous prenez votre petit carnet bleu que vous ouvrez. Ouais. Ça ressemble un peu à une sorte d'enveloppe de téléphone portable.
Ouais, voilà.
Et puis dedans, il y a un petit bloc-notes.
Voilà.
Et un stylo qui est là en permanence.
Toujours prêt à dégainer.
C'est fondamental pour
complètement.
Vous.
Et là, mais le problème, c'est que quand on est en scooter, on a un casque, on a des gants, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que je m'arrêtais tous les 100 mètres, je me sortais mon casque, je mettais mon carnet, j'écrivais deux lignes, je continuais, zut, une idée, enfin zut, façon de parler, hop, je m'arrêtais, et comme ça, et je continuais. Et une grosse partie de la chanson, je l'ai écrite sur mon scooter.
Et là, j'imagine que c'est une chanson qui fait rire.
Oui, ouais, 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 tout à fait. Au début, enfin même pas, puis même je m'aperçois que dans les milieux chrétiens, les gens sont preneurs. La première fois que j'ai chanté, bon, je me suis dit, je vais quand même avertir les responsables. Je suis allé voir Jean-Paul, j'ai frappé à la porte de son bureau, où on est ici d'ailleurs. J'ai dit, Jean-Paul, je voulais te parler, j'ai une chanson peut-être qui peut être un peu difficile à écouter. Il me fait un grand sourire, il me dit, je t'attendais. Et puis il savait de quoi j'avais parlé, il m'a dit t'inquiète pas, on est avec toi, pas de soucis, si t'as un problème avec les gens, tu dis qu'ils aillent voir les responsables et puis on te soutient. Et puis je m'aperçois qu'en fin de compte les pasteurs bien souvent ils m'invitent pour cette chanson, pas que ça, mais pour qu'on puisse parler de ce thème qui est délicat, le sexe, quand même un thème délicat, et qu'on puisse le faire avec humour et puis après engager des conversations.
C'est bien tous les crevisses qui logent entre les cuisses de l'homme, qui mène la palette planquée derrière sa baguette en somme. Il se durcit, il se dresse pour la moindre paire de fesses et puces. D'un bonhomme bien sympathique fait un gros cochon lubrique, motus. Il fait vendre les bagnoles, fait la une des Mac People, renverse les présidents, levé des gourous tous les ans. Il engraisse les macros, remplit les facs de psycho. Et quand se pointe la quarantaine, cherche à séduire les lycéennes. C'est bien toujours les crevisses qui logent entre les cuisses des mecs. Le parasite le plus heureux vient d'agripper entre ses deux pastèques. Il a sa propre littérature, une abondante cyberculture en relax. Et pour instaurer ses lobbies sur tous les fronts, il communique un max. Un jour il fera de la politique, conduira la République, écrira son gouvernement avec une bande de glands. Il débuta sous les préaux, sous la forme d'histoire de Toto, et finira au Panthéon comme bienfaiteur de la nation. Ah, flip, 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 flip. Fais gaffe à l'écrevisse qui loge entre tes cuisses velues. Apprends-lui la politesse sur le bien faire au bout d'une laisse tendue. Si c'est un insoumis, s'il te désobéit dans le dos, oublie mes bons conseils car il a pris la place de ton cerveau. Et dans ces cas-là, mon pote, tu sais, il vaut mieux laisser tomber. Ouais, ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que dans le monde de la chanson française, il y a beaucoup de chanteurs qui ont une démarche comparable à la vôtre, qui essayent au travers de leurs chansons de dire leurs convictions profondes, leurs convictions chrétiennes?
Dans le monde de la chanson française, on a dit. Dans le monde, alors, pas à ma connaissance. Après, d'autres convictions, oui. Bah, on peut dire que Léo Ferré était un chanteur anarchiste, qu'il essayait pas d'apporter son message. Jean Ferrat, plutôt un chanteur communiste qui essayait de faire passer ses valeurs. Alors, je ne vais pas me comparer à ces gens-là, hein, parce que c'est quand même des grands messieurs. Mais autant on disait de Léo Ferré que c'était un chanteur anarchiste, autant qu'il était d'abord un chanteur et un chanteur anarchiste, de Jean Ferrat que c'était un chanteur de talent, chanteur communiste, autant je serais fier si on disait de Théo Z, dans le monde, à la radio, c'est un chanteur, il a du talent, j'espère qu'on dira ça, et c'est le chanteur chrétien. Après, des chanteurs qui ont une démarche similaire à la mienne, avec le message chrétien, à ma connaissance, je vois pas. Je sais pas, peut-être vous en connaissez, vous.
Mais comment se fait-il qu'il y ait finalement, alors qu'il y a quand même un dynamisme assez extraordinaire dans le monde chrétien, avec des chanteurs divers et variés, comment se fait-il qu'il y ait si peu de personnes qui essayent de s'inscrire dans cette dynamique de la chanson française, et pas simplement de chanter Dieu, mais de parler du quotidien avec un regard peut-être original?
Peut-être, est-ce que c'est pas la notion de ministère? Est-ce que c'est pas parce que dans les églises, dès qu'on a envie de faire quelque chose, même notamment artistique, de suite, il faut que ce soit déjà, il faut que ça parle de Dieu, forcément, puis de suite, c'est pour annoncer l'évangile ou pour la louange. Est-ce que l'art dans l'église n'est pas trop utilitaire, quelque part? Je sais pas, je pose des questions. Est-ce qu'il est gratuit?
Vous avez sûrement une réponse.
Non,
vous...
ben, oui, j'ai des idées, mais j'ai pas envie d'en donner. J'aime pas donner, forcément. Non, non, est-ce que...
Moi, je vous pose la question de manière directe. Est-ce que finalement, dans la manière dont les églises envisagent l'art, est-ce que c'est pas perçu de manière trop utilitaire? Est-ce qu'on n'instrumentalise pas les artistes et peut-être ce qu'ils font?
Ouais, je pense que quand on est artiste et chrétien, bien souvent, c'est pas gratuit. Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie de leur apporter mon cœur, simplement. Quand j'ai quelqu'un en face, je m'en fous qu'il soit chrétien ou pas chrétien. J'ai envie de passer un chouette moment avec lui et de lui apporter Dieu, entre autres, mais pas forcément que ça, l'amour, un chouette moment ensemble, des refrains, des choses comme ça. Je crois que ma démarche est gratuite. Après, quand des gens se tournent vers Dieu, parce qu'il y en a eu qui se sont tournés vers Dieu suite à mes chansons, bien sûr, je loue Dieu, je suis super content, je suis... Waouh, c'est génial. J'aime cette notion de gratuité. J'ai pas envie que les gens se sentent piégés non plus. Voilà, je ne suis pas un ministère.
Vous-même, vous vivez dans la région de Bordeaux. Comment est-ce que vous êtes perçu par les autres chanteurs que vous rencontrez, qui vous côtoient lors de festivals, parce que vous allez un peu partout dans les festivals?
De plus en plus. Le bassiste qui m'accompagne, notamment, c'est un exemple, est également auteur-compositeur, et il n'est pas chrétien, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un festival, ça a super accroché, et puis maintenant on tourne ensemble, et c'est super. Je jouais bientôt au Palais des Congrès de Soulac, dans la région bordelaise, c'est organisé par des artistes non chrétiens, le feeling passe bien, il y a un respect mutuel, moi je les respecte, et je crois que ça va dans les deux sens.
Théo Z, comment se fait-il que vous ayez été amené à inscrire une dynamique chrétienne dans le cadre de vos chansons?
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc cette dynamique chrétienne, elle était automatiquement dans mon cœur.
Comme d'autres choses.
Mais cette dynamique-là, elle n'a pas toujours été là.
Ah oui. Ah bien sûr, oui. Bon, j'ai été chanteur avant d'être chrétien. Alors j'ai bourlingué dans des tas de groupes, j'ai fait du punk, j'ai fait du rock, j'ai fait de la chanson, déjà à l'époque je chantais des choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et puis un jour j'ai eu la chance, grâce à une personne non chrétienne, de connaître Dieu.
Comment cela s'est-il passé?
Je jouais, c'est à l'époque où je jouais dans un groupe punk qui s'appelait Beignet Interditch sur Bordeaux. Le clavier avec qui je jouais était quelqu'un de très provocateur, encore, on arrive à ce mot, mais qui se moquait de tout, il poussait vraiment, il allait très très loin, quoi. Ses blagues favorites tournaient souvent autour de Dieu. Mais là, on était vraiment dans les choses malsaines, des fois. Et un jour, il a raconté des blagues de ce style à quelqu'un qui était chrétien. Et mon ami, ce musicien, a été scotché par tout ce que lui avait dit l'autre, que lui aimait Dieu et que Dieu pouvait faire des choses pour lui également, enfin, toutes ces choses. Et il a dit, oh, c'est magnifique, ça me plairait beaucoup, mais là j'ai trop de choses à lâcher, je veux pas le faire. Vraiment, ton message me touche, mais je suis pas prêt. Mais un jour, il passait une soirée avec celle qui est maintenant mon épouse. Et ils se sont mis avec d'autres personnes à parler de la vie après la vie. Elle s'est mise à parler de bouddhisme, de réincarnation, parce qu'elle était très là-dedans. Et puis Benoît, donc ce musicien qui était un fou furieux, lui s'est mis à parler de Dieu, de Jésus, tout simplement parce que cette autre personne lui en avait parlé. Lui n'était pas prêt à le recevoir, d'après lui, mais le message l'avait interpellé. Du coup, il a dit, voilà, moi ce que j'ai entendu, on m'a dit ça. Véro, donc qui est maintenant mon épouse, s'est levée, elle s'est enfermée dans les toilettes, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, et dans les toilettes, sans chrétien, sans pasteur, sans prêtre, elle a donné sa vie à Jésus. Et à partir de là...
Elle a été témoin auprès de vous de sa démarche de rencontre avec le Christ.
Ouais, mais pas tout de suite, parce que elle a commencé d'abord une vie seule à seule avec Dieu, pensant qu'elle était la seule qui vivait ça. Elle connaissait pas d'autres chrétiens. Et après, elle a rencontré des chrétiens et qui l'ont aidé à grandir, et puis là, elle a commencé à me prendre la tête. et que faut pas que t'écoutes cette musique, que c'est diabolique, et que, bon, vous savez comment sont les nouveaux chrétiens, et c'est bien, le feu, et que patati, moi j'en pouvais plus, elle me saoulait, je devenais violent, violent, je la battais pas, c'est pas ça que je veux dire, mais je devenais, je dis arrête, tu me saoules, je balançais tous ces livres à travers la pièce et tout, et puis un jour elle m'a fait écouter une cassette d'un pasteur, et je me rappelle même plus de quoi il parlait, mais ce que je me souviens, c'est que ça m'avait touché. Et je lui ai dit, écoute, tu as peut-être raison. J'ai dit ça parce que, attends, hey, c'était qui le mec? J'avais pas à lui dire, tu as raison, non, c'était moi l'homme, j'avais pas me rabaisser à dire. Et il s'est passé le premier miracle dans ma vie. C'est-à-dire que, autant j'étais quelqu'un d'angoissé. J'étais un mec qui voyait tout le temps la vie en noir. La première parole, souvent, que je disais en me levant, c'est encore une journée de foutu, à peine levée. Et le lendemain, je me suis réveillé avec la joie et la paix dans mon cœur. Alors que j'avais juste dit, tu as peut-être raison. Et là, j'ai senti que, ben, en fin de compte, c'était le bon plan. Et ben voilà, après, j'ai commencé avec elle à vivre un cheminement avec Dieu. Et puis donc, ben, Dieu a grandi dans mon cœur. Et puis ben voilà, après, ben, c'était normal que ça apparaisse dans mes chansons.
L'artiste Théo Z, qui était notre invité pour ce premier volet de cette série d'émissions intitulée « Convictions d'artiste ». Alors, Serge Carrel, Théo Z est un chanteur bordelais donc, et vous l'avez rencontré cet été dans le sud de la France où vous êtes allé.
Oui, je l'ai rencontré donc dans le cadre du stage artistique des écoles Psalmodia à Gagnères, un stage pendant lequel Théo Z s'est produit un soir sous le chapiteau, parce que chaque soir, durant cette semaine-là, il y a des artistes qui se produisent.
Alors ça, c'était sa performance de l'été, mais en dehors de ça, est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il se produit souvent? Ou est-ce qu'il fait d'abord, lui, de l'art? Est-ce que son art lui sert d'abord à lui-même?
Alors je crois qu'effectivement, il y a plus une démarche personnelle. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'un peu atypique, d'original. C'est pas quelqu'un qui se laisse, j'imagine, très, très facilement coacher. Donc il va de temps en temps, il l'a dit, dans les églises. Mais il mène aussi une carrière tout à fait laïque. Et il viendra tout prochainement se produire dans la banlieue de Genève, à Saint-Genis-Pouilly.
Alors une carrière laïque, mais son nom, Théo Z, Dieu Z, est-ce qu'il y a un sens particulier? Vous l'expliquez ça?
Alors, il m'a tout simplement raconté comment ça s'était passé. Au départ, il avait comme nom de scène Z, mais semble-t-il que c'est un nom dans le sud de la France qui est pas mal couru. Alors, pour éviter toute confusion, il a rajouté devant Théo, et c'est vrai que ça signifie quelque chose de fort. Théo, Dieu, Théo Z.
D'accord. Et demain, Serge, vous nous proposez une rencontre avec une autre artiste,
oui,
aussi
ça,
ancrée dans la conviction chrétienne.
Voilà, et c'est une autre artiste que j'ai rencontrée aussi à Gagnères, dans le cadre de ce stage psalmodial. Elle s'appelle Christine Janville, et elle vient de la région lyonnaise.
Rendez-vous demain, donc à 16h30, pour un deuxième volet de cette série Convictions d'artistes dans A Vue d'Esprit. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet religion.rsr.ch. ou nous téléphoner au 021 318 60 70 pour nous faire part de vos commentaires ou commander une copie de cette émission. Serge Carrel et Pierre-Yves Moret étaient au micro, Françoise Yenny à la réalisation. Bonne fin d'après-midi à l'écoute d'Espace 2 et à demain.